Alors, je suis content que les enfants soient partis parce que je me suis rendu compte en les voyant que ma toute première histoire, alors j'ai l'habitude de parler fort, c'est pas du chuchotement qui va me poser problème, mais ma toute première histoire n'est pas du tout adaptée aux oreilles des enfants. Et tout à coup, je me suis vu en obligation de tout changer. Vous connaissez peut-être un auteur qui s'appelle Philippe Yancey. C'est quelqu'un qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Touché par la grâce », quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. C'est un journaliste américain, c'est pas un pasteur, mais il a une profonde compréhension théologique. Il a écrit des livres sur la souffrance, sur une vision chrétienne de la souffrance et de l'épreuve, qui sont, comme j'ai une fois entendu dire, qui sont les moins bêtes sur le marché. Donc si vous vous débattez avec cette question, vous connaissez quelqu'un, essayez de trouver, ils sont encore disponibles d'occasion, les livres de Philippe Yancey sur la souffrance. Il y en a un qui est encore disponible, même aux éditions Ligue pour la lecture de la Bible. Je parlerai beaucoup de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc je suis président de la LLB en France, notamment très impliqué au niveau des éditions, donc je vais vous faire de la pub pour les éditions LLB. Philippe Yancey raconte dans un de ses livres l'histoire vécue par une assistante sociale qui devait s'occuper de la situation d'une jeune femme toxicomane. Cette femme payait ses doses de drogue en se prostituant. Et il se trouvait qu'elle avait eu une petite fille. Et cette petite fille, elle la vendait à des hommes pédophiles pour, en gagnant en une seule nuit, en vendant sa fille, sa fillette, plus qu'elle-même ne pouvait gagner en une semaine, voire plus. Et donc, elle s'en est ouverte à l'assistante sociale qui s'occupait de sa situation, qui bien sûr devait faire en sorte que la petite fille soit mise en sécurité. Et dans le cadre du suivi de cette jeune maman, cette assistante sociale chrétienne lui a suggéré différents lieux où elle pourrait éventuellement aller chercher de l'aide pour se reconstruire, pour se sortir de là où elle se trouvait. Et parmi les propositions qu'elle lui a faites, elle lui a dit « Peut-être que vous pourriez aller chercher de l'aide auprès des chrétiens dans une église. » Et cette femme a dit « Une église? Qu'est-ce que j'irai faire dans une église? Je me sens déjà tellement sale et mauvaise. Qu'est-ce que j'irai faire dans une église ?» Et Philippe Yancey commence son livre « Touché par la grâce » en racontant cette histoire et poursuit en disant au travers de ce livre que ceux qui... Enfin, sa question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ans d'histoire depuis que Jésus a marché sur terre pour que des gens comme cette femme qui, à l'époque de Jésus, le cherchait, le côtoyait, venait à son contact volontairement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, la plupart de nos contemporains se soient à ce point éloignés de ce modèle d'origine? Et donc, il passe le restant du livre « Touché par la grâce », à dire ce que nous avons perdu dans notre témoignage, dans nos églises, c'est la grâce. C'est la pratique de la grâce. Cette femme avait une mauvaise idée de l'église et des chrétiens. Heureusement, toutes les églises ne sont pas comme ça. Mais cela nous interroge. Alors, tout de suite, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'église ? En fait, je vais utiliser ce terme dans tous les sens du mot. Et en vous chargeant de situer le sens dans le contexte de ma phrase. Parfois, il s'agira de l'église en général, l'église de Jésus-Christ. Quand je dis, voilà, qu'est-ce qui est arrivé pour que l'église, en 2000 ans, perde de vue l'accueil que Jésus avait envers les personnes, les personnes abîmées par la vie, on va dire. Parfois, je parle de l'église locale. Je vais parler de votre église, de l'église dans sa manifestation locale, dans un lieu, dans une ville. Et je vais parfois aussi parler de l'église bâtiment, qui doit dire par son architecture ou sa déco, bienvenue à ceux qui passent par la porte. Alors, vous êtes déjà une église qui sait accueillir. Ça, je l'ai compris. Vous avez déjà travaillé dans ce domaine. Vous avez même, Anne-Marie est responsable de l'accueil. Vous avez des équipes qui... j'ai partagé le repas avec Simon. Donc j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Et vous avez donc déjà parcouru tout un chemin autour de cette question de l'accueil. J'ai compris que vous avez conçu l'aménagement de vos locaux actuels à Clermont-Ferrand de manière à être justement à avoir des locaux accueillants. Vous avez déjà donc fait un bon bout de chemin autour de cette thématique. Et si vous m'avez invité, ce n'est certainement pas pour vous apprendre des choses nouvelles. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à une église qui sait déjà si bien accueillir ? Ce que je propose donc, c'est d'envisager avec vous quelques idées, quelques questions qui vous permettront, je l'espère, de pérenniser l'accueil que vous avez déjà mis en place, et puis de rendre cet accueil toujours plus intentionnel, construit et réfléchi. Première question qui me pose problème lorsqu'on réfléchit à l'accueil, c'est l'Église. Est-elle donc, si l'Église doit être accueillante, si nous parlons de l'accueil dans l'Église, nous sommes en train de parler de son attitude envers les gens. Et la question se pose, est-ce que l'Église est là pour les gens ou pour Dieu ? On me l'a posé lorsque j'étais responsable du groupe de jeunes de l'Église libre d'Avignon, il y a pas mal d'années. Je me souviens d'une étudiante qui était là un jour lors d'une réunion du groupe de jeunes. Elle dit, mais attends, mais l'Église, elle n'est pas pour les gens, elle est pour Dieu. On ne me l'avait jamais posé aussi clairement cette question. Un de nos problèmes, c'est que nous sommes tiraillés, voire même divisés sur la finalité de l'Église. Et j'ai entendu les deux sons de cloche. Ce qui souligne que l'Église a un devoir d'hospitalité, de soins. L'Église hôpital, l'Église centre d'accueil. Et puis il y a ceux qui affirment, non, Christ a institué l'Église pour la gloire du Père, pour que les chrétiens l'adorent et devrait donc être un contexte, un lieu, une communauté et un événement d'adoration de Dieu. Évidemment, vous comprenez que selon la focalisation principale, selon notre vision principale de l'Église, nous la vivrons différemment. Nous la critiquerons différemment lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes. Pour ceux qui veulent une expérience hebdomadaire le dimanche matin de louange, d'adoration, de bien-être intérieur, de connaissance de Dieu, de rapprochement du Seigneur, évidemment, quand l'Église accueille trop de personnes différentes ou qui n'ont pas cette habitude-là, eh bien, l'Église cessera de correspondre à leurs attentes. Et ça va provoquer des étincelles, peut-être des critiques. Nous pourrions, pour caricaturer ces deux visions de l'Église, parler d'Église ouverte et d'Église fermée. C'est un peu caricatural, mais c'est plus facile de parler ainsi. Les partisans de l'Église ouverte soulignent que nous vivons à une époque post-chrétienne, où de nombreuses églises se vident. Il nous faut donc, et c'est leur vision principale, faciliter l'accueil à nos églises, faciliter l'accès à nos églises, c'est peut-être un meilleur terme. Il nous faut faciliter l'accès à nos églises pour ceux et celles qui n'en ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas le milieu d'église. Alors, on a lu, vécu des choses, des expériences dans ce domaine. J'ai peut-être entendu parler, de début des années 2000, l'église émergente, les églises de maison. Je me souviens, à l'église libre d'Avignon, nous avions passé tout un week-end autour de cette thématique des églises de maison. Il y en avait même qui voulaient fermer l'église principale pour ne faire que des églises de maison. Ce sont des personnes, les partisans de l'Église, de cette Église ouverte, sont des personnes qui souvent ont peur de perdre leur pertinence dans la société actuelle. Et c'est vrai que lorsque nous voyons de nombreuses églises, ce n'est pas votre cas à Clermont-Ferrand, mais lorsque nous voyons de nombreuses églises se vider, lorsque on aspire au Seigneur, envoie-nous quelques personnes ce dimanche, ou on organise une réunion, on organise un événement, et on espère désespérément qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je me souviens, il y a des années de ça, j'ai décidé, plus jamais je me trouverai dans cette situation-là. Je ne veux plus faire de l'évangélisation dans ce contexte-là, je ne veux plus être pasteur dans ce genre de contexte. Nous avons peur lorsque nous voyons les églises se vider, lorsque nous sentons que nous ne sommes pas aux prises avec les préoccupations de nos contemporains. Voilà, nous avons peur de perdre notre pertinence de chrétien. Et ça produit chez certains l'attitude « Ah, mais c'était mieux avant. » Avant, quand l'église était respectée, quand être chrétien, ça voulait dire être au culte tous les dimanches matins, et puis le mardi ou mercredi soir, et puis etc., etc. Vous voyez de quoi je parle. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça, et il y a une sorte d'aspiration à l'ancien temps. C'était mieux avant. Les partisans de l'église fermée mentionnent volontiers des textes dans la Bible qui parlent de la nécessité d'une discipline d'église, une sainte scène où on veille à ce que seuls ceux qui en sont dignes prennent le pain et le vin. Et ce sont des personnes qui, très facilement, vont condamner des expériences. Par exemple, j'ai entendu parler d'églises qui ont enlevé la croix de la salle de culte, parce que une croix, c'est un instrument de torture, c'est un instrument de supplice. Pourquoi afficher ça lorsque nous essayons d'accueillir ceux qui n'ont pas une culture chrétienne? Alors, quelle est la réponse biblique à cette interrogation? Le mouvement, ce que j'appelle le mouvement bidirectionnel de l'amour, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 22. Je vous invite à ouvrir, si vous le voulez, ou à ouvrir votre téléphone pour suivre. Matthieu chapitre 22. Versets 36 à 40. C'est tellement bien connu, mais ça nous fait du bien de nous en rappeler. Et ça devrait être la base de toute notre réflexion concernant l'accueil. Versets 36 à 40. Maître, c'est quelqu'un qui s'adresse à Jésus, donc, hein, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième. Il ne lui avait pas demandé le deuxième, mais Jésus lui donne quand même. Et voici le deuxième. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, par cette réponse et avec cette petite phrase, et voici le deuxième, qui lui est semblable, qui lui est analogue, qui est de la même nature, qui fait partie de la même respiration, je paraphrase, j'extrapole, mais je ne pense pas aller trop loin en se faisant. Jésus relie à tout jamais ces deux dimensions, l'amour de Dieu vertical et l'amour du prochain horizontal. Ce ne sont pas des choses qu'il nous faudrait choisir ou entre lesquelles il nous faudrait choisir. Il ne s'agit pas de sélectionner notre priorité dans ces domaines-là. Il n'y a pas de priorité d'importance. S'il y a une priorité, elle est uniquement chronologique et fonctionnelle. C'est en aimant Dieu qu'on pourra aimer convenablement notre prochain. Et puis Jésus résume en disant « De ces deux commandements » dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce qui a précédé dans l'histoire d'Israël, toutes les Écritures, tout l'Évangile que nous avons, dont nous disposons, dépend de ces deux commandements. Il ne s'agit pas de choisir entre la dimension verticale et la dimension horizontale. Le fait que l'amour de Dieu précède l'amour du prochain n'a pas pour objectif de nous donner un ordre d'importance. C'est en aimant Dieu que l'on pourra mieux aimer le prochain. Et si nous aimons vraiment Dieu, cela débouchera sur l'amour du prochain. Si nous aimons vraiment Dieu, cela débouchera sur l'accueil. En fait, des gens qui ont des problèmes avec l'accueil de l'autre, ce sont des gens qui n'ont pas compris à quel point Dieu nous accueille. Le problème principal, on va en parler à nouveau dans un instant, de l'accueil, c'est d'accueillir la différence. C'est relativement facile d'accueillir les gens qu'on connaît ou qui sont comme nous, qui partagent nos opinions. C'est facile. Là où l'accueil devient vraiment intéressant et un peu plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit d'accueillir la différence. La plus grande différence qui puisse exister entre les êtres, c'est celle qu'il y a déjà entre Dieu et nous. Quand nous sommes à l'aise dans nos baskets de chrétiens, c'est-à-dire quand nous sommes reposés dans l'amour de Dieu pour nous, dans son accueil à notre égard, la Bible dit qu'il nous a aimés même quand on était encore ses ennemis. Quand on est complètement à l'aise avec cette vérité, à ce moment-là, on devient des gens pour qui l'accueil coule naturellement. Moi, je sais que j'en suis pas encore là. Je sais que je dois me réveiller le matin en me rappelant à quel point Dieu m'aime. Je sais que ma spiritualité et ma piété ont encore du chemin à faire pour être bien tranquille, pour me reposer dans cet amour que Dieu a pour moi, afin que je puisse le reverser aux autres, le déborder pour les autres. Si nous aimons vraiment Dieu, cela débouchera sur un amour du prochain. C'est par désir de glorifier Dieu que nous obéirons de la manière la plus efficace en aimant notre prochain de manière concrète et visible. Il n'y a donc pas lieu de choisir entre la verticale de l'amour de Dieu et l'horizontale de l'amour du prochain. L'objectif, il n'y a donc pas lieu de choisir entre une église pour Dieu et une église pour les autres. Il me semble que c'est la conclusion logique et naturelle de ce texte que nous venons de lire. L'objectif d'une église accueillante, c'est que chaque décision, depuis l'architecture et la décoration du bâtiment jusqu'aux décisions du conseil concernant le déroulement des cultes, jusqu'à l'attitude des chrétiens pendant les moments de convivialité à la sortie du culte, que tout cela puisse glorifier Dieu en disant à ceux qui passent par les portes du bâtiment ou qui atterrissent sur le site internet de l'Église, vous êtes les bienvenus. Que toutes nos décisions, que toute notre spiritualité d'Église dise à ceux qui passent par la porte des bâtiments ou qui atterrissent sur le site internet de l'Église, nous avons un grand Dieu qui vous aime et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de le chercher et d'apprendre à le connaître. Alors, j'ai intitulé le propos de cet après-midi plus spécifiquement « Église attirante ou Église accueillante ?» Église accueillante ou Église attirante. J'aurais pu poursuivre en disant « Faut-il choisir ?» L'Église doit-elle chercher à être attirante ? Je poserai la question autrement, une église locale qui fait envie est-elle même biblique? Nous sommes partagés sur la légitimité de cette question, de cette idée. Nous pensons que l'église doit être attirante, Christ l'était, bien que, nous dit le prophète Ésaïe en parlant du Messie, il n'a rien pour attirer les regards. C'est-à-dire, Jésus n'était pas beau. On ne sait pas à quoi il ressemble, il ressemblait, humainement, physiquement. Il y ressemble toujours parce qu'il reste incarné aujourd'hui. On sait qu'il y avait des femmes qui sont tombées amoureuses de lui. On sait qu'il a été tenté sexuellement parce qu'il a été tenté en tout. Mais il n'avait rien pour attirer le regard, nous dit Ésaïe. Donc, toutes les visions hollywoodiennes de Jésus sont fausses. J'espère que je ne vous déçois pas en disant ça. Nous savons que l'Église devrait être attirante parce que quand même, malgré tout, Jésus était attirant. Mais nous nous méfions de l'approbation du monde, car nous y flairons le compromis. Alors, en positif, dans la Bible, nous trouvons des textes qui parlent de la façon dont les chrétiens, les Églises, étaient attirants. Par exemple, dans Actes chapitre 2, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, on parle du chrétien là, hein. Ils rompaient le pain dans leurs maisons, dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est positif. Voilà, des chrétiens qui formaient une communauté attirante. Mais dans Luc chapitre 6, Jésus dit la chose suivante. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Négatif. si les gens apprécient trop l'Église, c'est qu'on se tromperait de chemin, donc. Néanmoins, Jésus et Paul valorisaient le regard des incroyants. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit la chose suivante. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et Paul dit quelque chose d'intéressant aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'il parle de la manière dont les cultes sont gérés. Et il parle de l'impression que pourrait ressentir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui rentrerait. Ça semble évident pour Paul que des personnes qui n'avaient pas la foi allaient, tôt ou tard, plus ou moins fréquemment, rentrer dans l'Église, jeter un regard, et soit être heureux de ce qu'ils voyaient, ou impressionnés, ou convaincus, soit être rebutés par ce qu'ils allaient voir dans l'Église. Je cite le pasteur Thierry Huser à ce propos, à propos donc de 1 Corinthiens 14. Le point intéressant est le fait que Paul invite à prendre en compte le regard de ces personnes qui entrent. Il y a une perspective très forte du point de vue de l'accueil. Pensez ce que vous faites et vivez dans vos rassemblements en fonction du regard de celui qui n'est pas initié ou qui ne croit pas. Bien sûr, il n'est pas question d'adapter nos cultes pour les gens. Le culte reste pour Dieu, d'abord. Mais il semble vraiment, d'après l'Écriture, qu'une prise en compte de l'humain ne nuit pas à la valeur du culte aux yeux de Dieu. J'aimerais aussi aborder la question qui va au-delà de l'accueil. Je parlerai demain de la distinction importante et salutaire, je dirais, pour notre témoignage contemporain, entre accueil, accompagnement et approbation. J'ai passé 15 ans comme aumônier d'une structure d'accompagnement, une structure chrétienne d'accompagnement des malades du sida. Vous imaginez que j'ai côtoyé de nombreuses personnes dans ce contexte qui n'avaient pas du tout l'habitude de fréquenter les églises et qui ne partageaient pas du tout mes opinions chrétiennes. Et très souvent, ce sont des personnes aussi qui, par leur choix de vie, peuvent impacter nos familles. Et j'ai eu beaucoup, dans ce contexte, beaucoup de parents, de mamans, de papas, de membres de fratrie qui me disaient « Mais si j'accueille mon frère et son compagnon, comment est-ce qu'il va croire que j'approuve ce qu'il fait ?» Cette distinction entre accueil, accompagnement et approbation. Mais on en parlera demain. Pour le moment, je veux simplement parler du fait que il y a quelque chose au-delà de l'accueil. L'accueil, un vrai accueil, ne dit pas seulement « bienvenue », un vrai accueil dit aussi « revenez nous voir ». J'appelle parfois cette idée le témoignage de la seconde tasse de café. Alors, si vous êtes buveur de thé, ça peut être une tasse de thé. Si vous aimez la bière, ça peut être une seconde bière, peu importe. Le témoignage de la seconde tasse de café. Il s'agit de faire en sorte qu'un interlocuteur ait envie d'en entendre davantage. Si j'invite quelqu'un à prendre un café avec moi, mais que je lui explique tout de ma foi lors de la première tasse de café, il n'aura aucune envie de revenir une autre fois pour une seconde tasse de café. Je pense qu'avec cette idée, nous touchons une différence fondamentale entre église attirante et église accueillante. Une église attirante peut servir du café. Mais l'accueil ne commence vraiment, je dirais, qu'avec la seconde tasse de café. Vous l'avez deviné, j'aime bien le café. Alors, quand Luc a appelé au café post-repas tout à l'heure, j'étais bien content. Je me souviens d'une jeune femme d'origine africaine dans une des églises que j'ai fréquentées pendant un temps, qui avait une très très belle voix et qui avait été invitée par les organisateurs de la fête de la musique de la petite ville où elle habitait, a participé à une prestation de chant gospel lors de la fête de la musique en juin. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit « Oh, ça s'est bien passé. Mais alors, j'ai pas pu présenter l'Évangile. Et elle était triste de ne pas avoir pu présenter clairement, vous êtes des pécheurs, Jésus est mort à la croix pour vous, pour vous réconcilier avec Dieu, vous avez besoin de lui demander pardon pour vos péchés, afin d'être sauvés, sinon vous irez en enfer. Elle aurait aimé avoir l'occasion de dire ça dans son témoignage ou dans sa prestation musicale. Moi, je l'ai encouragée à ne pas regretter de ne pas avoir eu cette occasion. Parce que je lui ai dit, si tu avais dit ça ou fait ça, je te garantis que l'année prochaine, la fête de musique, c'est râpé pour toi. Tu ne seras jamais réinvité. Par contre, la manière dont ça s'est passé, ils t'ont dit, elle m'en avait parlé, elle m'avait raconté un peu comment ça s'était passé, ils t'ont dit qu'il y a une chorale qui se monte, ils vont préparer ça mieux l'année prochaine. Tu vas avoir une année pour qu'ils te voient vivre en tant que chrétienne. Tu vas avoir une année entière, peut-être plus, à évoluer dans un milieu où il y a plein de gens qui aiment bien se faire voir parce qu'ils aiment bien chanter, ils aiment bien impressionner les gens par leur belle voix. Et tu vas avoir une année entière pour montrer que toi, tant que chrétienne, tu n'es pas comme ça. Tu vas avoir une année entière pour cultiver des relations avec eux. Tout ça parce que tu n'as pas présenté tout ton témoignage. Tu n'as pas présenté tout l'Évangile la première fois que tu as ouvert la bouche dans ce contexte-là. C'est ça le témoignage de la seconde tasse de café. Que les gens nous voient vivre. Que les gens puissent vérifier. Que nous sachions faire beaucoup plus que transmettre des informations. Vous savez, les gens, les informations sur Jésus, ils peuvent aller sur Internet. Bon, ils verront toutes sortes de choses bizarres aussi. Mais ils n'ont pas besoin de nous. D'ailleurs, ils n'attendent pas des informations sur l'Évangile de notre part. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si l'Évangile pour nous est authentique. Comment nous le vivons, l'Évangile? Et sans une relation qui, sur la durée, sans la deuxième, la troisième, la quatrième tasse de café, ils n'auront pas l'occasion d'observer la différence que ça fait d'être chrétien. Je suis, avec mon épouse, régulièrement invité en Turquie par la Fédération Baptiste, des Églises Baptistes Turques à animer des camps de jeunes, des rencontres de ce genre. Et une des choses qui m'inspire, enfin, qui m'interpelle lorsque je suis là-bas, c'est la facilité avec laquelle les gens viennent interroger les chrétiens sur la foi chrétienne. C'est un pays musulman, mais la facilité avec laquelle les gens viennent interroger les chrétiens, parce qu'ils les voient vivre et ils considèrent que c'est une différence et ils sont curieux. Ils ont envie de venir. Et les chrétiens, bon, on boit beaucoup de thé en Turquie, beaucoup de thé sans lait, un thé assez fort, qui bout toute la journée dans une sorte de, des sortes de théières spéciales, particulières. Il faut aimer le thé aussi. Et on parle, on répond aux questions. L'évangélisation est tellement facile dans ce genre de contexte où il est possible d'observer la différence. Cette année, il m'avait demandé de... J'en viens là, au mois de septembre, j'étais à côté d'Éphèse pour des études bibliques sur le thème... Alors, c'était un camp pour les jeunes de 16 à 30 ans, on va dire. Et le thème qu'on m'avait demandé de traiter, c'est... Alors, vous imaginez, hein, dans un pays musulman, quelle différence ça fait d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'être chrétien? Alors, je ne parle pas en turc, je parle en anglais et on me traduit en turc. Mais voilà, que les gens aient l'occasion d'observer que ça fait vraiment une différence d'être chrétien. Évidemment, si Dieu nous épargnait toutes les épreuves de la vie, eh bien, les gens ne verraient pas l'authenticité de notre foi. Mais parce que Dieu ne nous épargne pas toutes les épreuves de la vie, là, les gens nous voient en train de vivre des choses difficiles comme eux, et c'est là qu'ils voient notre différence, c'est là qu'ils voient notre espérance. Les personnes avec qui nous parlons se débattent quotidiennement avec des préoccupations réelles, pas des abstractions théologiques. Lorsque je vois Jésus en train de partager l'Évangile, je suis impressionné par la façon... Bah, il savait rassurer des mamans qui s'inquiétaient pour l'avenir de leur enfant, comme il savait abreuver les soifs spirituelles d'une femme qui avait eu 5 maris et un amant. Oui, l'Église doit chercher à être attirante. En Christ, L'Église possède les premières étapes, elle possède les premiers éléments de réponse à toute une gamme des interrogations humaines. Je dirais ça autrement, nous avons un message qui est tellement, correspond tellement aux interrogations de nos contemporains, que nous devons nous interroger lorsque nous ne parvenons pas à faire de la passerelle avec eux, lorsque nous ne parvenons pas à franchir le pas, lorsque notre message bute contre un mur, enfin, rencontre un mur qui l'empêche de passer. Je parle parfois de la. Je fais une analogie parfois entre notre façon de partager l'évangile et les arts martiaux. Alors, je ne pratique pas les arts martiaux, mais une chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas la force brute qui fait un bon karatéka. Ce n'est pas la force brute qui fait la valeur au judo. Ce qui compte, c'est de savoir accueillir la force de l'autre et de la retourner contre lui. Ce n'est pas d'être particulièrement fort, ce n'est pas d'avoir toujours raison dans les arts martiaux qui comptent. C'est de savoir prendre ce que l'autre nous envoie et de l'utiliser dans la rencontre. Je dirais que ça, c'est une des bases d'une façon efficace de se mettre à partager notre foi. Rencontrer les gens avec leurs vraies interrogations. Ne pas chercher à leur donner des réponses concernant des choses, concernant des questions, des réponses à des questions que peut-être ils ne se posent pas ou plus. Savoir écouter. Oui, l'Église doit chercher à être attirante. En Christ, elle possède les premiers éléments de réponse à toute la gamme des interrogations humaines. Si donc les gens sont repoussés par notre témoignage, faisons en sorte que ce soit par une réelle rencontre avec les implications de la croix du Christ, et non pas parce que nous sommes bizarres. Paul dit dans 1 Corinthiens 1 que la crucifixion du Christ est une folie aux yeux de ceux qui périssent. Si donc nos amis nous croient fous, que ce soit justement parce que nous suivons le crucifié, et non pas parce qu'ils nous trouvent étranges. Quelles sont les difficultés de l'accueil? Alors, vous en faites pas, je ne serai pas encore. On m'a donné jusqu'à 16 heures. Je ne serai pas en train de parler à 16 heures. Ce que j'aimerais, je vais encore parler de quelques difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'accueil, et ensuite j'aimerais vous laisser la parole. J'espère que certaines des choses que j'ai dites ont peut-être attisé votre curiosité. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous aimeriez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Donc, si vous avez un papier, un crayon, n'hésitez pas à les sortir, à préparer des questions, à préparer un moment. J'aimerais bien qu'on puisse, dans un moment, ça vous tiendra éveillé un peu plus que ma voix. J'aimerais bien qu'on puisse partager ensemble lorsque j'aurai parlé donc de quelques difficultés que nous pouvons avoir lorsque nous voulons pratiquer l'accueil. Il s'agit donc de parler des obstacles à surmonter pour être une église accueillante. Nous ne pouvons pas couvrir tous les cas de figure, mais j'ai essayé néanmoins d'aborder les difficultés qui me semblent les plus évidentes. Il s'agit d'accueillir les nouveaux, ceux que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'ils vont nous sortir. Moi, je me souviens d'une rencontre une fois avec une dame. Elle arrive comme ça, je ne la connaissais pas plus que ça. Et donc, on se met à échanger. Puis à un moment, elle me dit, « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je dis, « Oh, je suis pasteur. » Ah, mon premier mari était pasteur. On ne sait pas ce que les gens vont nous sortir quand on ne les connaît pas et qu'on cherche à les accueillir. Une autre fois, et celle-là, vous allez rire aussi, c'était connaissance avec nos nouveaux voisins. On venait d'aménager la moitié d'un mas provençal. Donc on avait une moitié, et il y avait des voisins qu'on ne connaissait pas dans l'autre moitié. Et puis ils arrivent. On se présente, et puis évidemment, on veut savoir qui on est, pourquoi. Donc, on venait d'arriver à une ville de Cavaillon, et une petite implantation d'église était en train de se monter. Et là aussi, j'ai dit, « Ah, je suis pasteur protestant. » La dame nous a regardé et dit, « Ah oui, ah, dans ma jeunesse, j'ai passé du temps aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de protestants là-bas. Ils sont bien, en fait, vous savez. » Merci, madame. On ne sait pas ce que les gens vont nous sortir. Il s'agit d'accueillir les nouveaux, ceux que nous ne connaissons pas. Il s'agit aussi d'accueillir la curiosité des gens. Je me souviens d'un ami, justement un ami qu'on accompagnait à l'association Signes de vie SIDA. Lui, son truc, c'était... Il portait un blouson en jean coupé avec un patch de Alice Cooper derrière. Et un jour, bon, on se connaissait par l'association, on se connaissait, j'animais un groupe de parole pour les malades du sida et pour ceux qui, pour leurs proches. On s'était bien connus, il s'appelait Alex. Et un jour, Alex, il me dit, mais tu sais, je ne vais jamais aller à l'église, moi. Moi, j'aimerais bien... venir te voir à l'œuvre un jour. J'aimerais bien venir te voir à l'œuvre. Et donc, il s'est mis à venir à l'église de temps en temps. La première fois qu'il est venu à l'église, je suis un ami à Jonathan. Mais c'était super, c'était bien. L'église me connaissait aussi, donc ils savaient les amitiés que j'avais. Et ils ont su l'accueillir. Mais il était curieux. Et je suis souvent frappé par le nombre de nos contemporains qui, quand ils voient vivre des chrétiens... dans le service, dans la vie de tous les jours, parfois dans les épreuves, à l'association des parents d'élèves, de l'école par exemple, ou des collègues de travail, eh bien peuvent être simplement curieux. Et plus notre église, les locaux, les autres membres, ce qui se dit dans le culte, seront accessibles et résonneront avec leurs interrogations, plus leur curiosité sera attisée et ils auront envie de revenir. Savoir accueillir la curiosité des gens. Beaucoup de personnes sont curieuses lorsqu'elles voient vivre les chrétiens et que nous savons mettre en pratique la grâce, comme je la décrivais au début. Mais je dirais que la difficulté la plus grande est certainement celle qui résume toutes les autres. L'accueil de la différence. Accueillir la différence. Pour être accueillant, déjà, il faut être à l'aise avec son identité à soi. C'est-à-dire avec sa propre différence. En tant que chrétien, dans le monde où nous vivons, nous sommes différents, reconnaissons-le. Et je connais des chrétiens qui passent leur temps à essayer de cultiver leur pertinence culturelle dans la société. Et en fait, très souvent, ça se termine par une sorte de compromission avec les valeurs profondes de l'Évangile, si on ne fait pas attention. Mais nous sommes différents, reconnaissons-le, Paul en parle, une des différences les plus fondamentales, je dirais, c'est que nous adorons un Dieu qui a vaincu la mort. Nous suivons un Christ ressuscité. Et d'après Paul, si on ne croit pas cette base-là, eh bien, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, pour parler contemporain par rapport à Paul. Une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont du mal avec un accueil trop ouvert, c'est qu'elles sont déjà mal à l'aise avec ceux et celles qui ne partagent pas leur opinion. Vous connaissez des gens, vous, qui ne supportent pas la contradiction, qui ne supportent pas la différence? Moi, j'en connais pas mal. Si nous sommes à l'aise avec notre foi, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de comprendre à quel point nous sommes accueillis par Dieu déjà. Mais si nous sommes à l'aise avec notre foi, confiants dans la relation avec le Christ et avec sa vérité, alors nous n'avons pas à craindre les remises en question. Quand une personne est cassante et ne supporte pas les avis différents des siens, c'est qu'elle est mal à l'aise en elle-même et qu'elle manque d'assurance. L'accueil de la différence implique d'être à l'aise dans ses baskets, d'être capable de dire « je suis qui je suis, j'ai mes convictions, je t'aime même si tu n'es pas d'accord avec moi ». Ce n'est pas juste un problème des chrétiens, ça. C'est un problème de la société en général. On confond tolérance avec indifférence. C'est facile d'être tolérant à l'égard de ceux qui ne nous intéressent pas. Alors, je vais vous le dire, je ne suis pas fouteux, je ne suis pas porté sur le sport. Je vais interviewer Olivier Giroud la semaine prochaine pour le Centre évangélique. Mais j'ai dû commencer à lire beaucoup à propos du foot pour préparer cette interview. Cela dit, Je ne connais pas grand-chose au foot. Vous savez, c'était en 98, la France a gagné la Coupe du Monde. Quand elle est allée, c'était en Corée, hein, pour la Coupe du Monde suivante, ils se sont fait éliminer en quart de finale, les Français. Moi, ne m'intéressait pas. Franchement, j'étais très très tolérant envers l'échec de l'équipe de France en Corée. Parce que je suis indifférent au résultat des équipes, des matchs de foot. Je suis très tolérant envers l'équipe de France quand elle perd. Par contre, le fan qui avait payé son billet d'avion et son séjour là-bas pour assister à la Coupe du Monde, à l'autre bout du monde, pour voir son équipe préférée gagner deux Coupes du Monde de suite, il était peut-être moins tolérant que moi à l'égard de l'échec de l'équipe de France. C'est facile d'être tolérant quand on n'a pas de billes investies dans l'histoire. Mais quand on est impliqué, eh bien, ce n'est pas de tolérance dont on a besoin. C'est d'amour, c'est d'accompagnement, c'est d'accueil. C'est autre chose. L'accueil de la différence implique de savoir aimer sans approuver. J'en parlerai davantage demain, la nécessité de distinguer, je l'ai dit, entre l'accueil, l'accompagnement, l'approbation. Mais aujourd'hui, je me contenterai de parler de la différence et des problèmes qu'elle nous pose. Comme vous l'avez compris, j'ai eu l'occasion, au fil de mon ministère, de fréquenter des personnes très différentes de moi. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, jusqu'à un certain point, c'était les personnes touchées par le virus du sida. Alors, beaucoup d'entre elles, de ces personnes, me ressemblent beaucoup. Beaucoup ont mon profil, mais beaucoup ne me ressemblent pas non plus. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup des personnes avec qui nous étions en train de travailler étaient très éloignées de l'Église, au point qu'elles considéraient parfois l'Église comme étant l'ennemi. Plus récemment, vous le savez peut-être, je pense qu'Éric le sait certainement, j'ai beaucoup été engagé auprès de musiciens, notamment dans un festival de métal et de hard rock du côté de Nantes, qu'on appelle le Hellfest, où je me rends chaque année. Il a été annulé depuis 2 ans. J'aime ce style de musique déjà, mais j'y vais en tant qu'aumônier aussi, les gens m'appellent le curé. sur place. Et j'y vais comme la première fois que j'y suis allé, j'ai demandé un accès presse. J'écrivais pour un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Horizon Évangélique. Je voulais interviewer un groupe où je savais qu'il y avait des chrétiens sur scène. Donc, et j'ai demandé le passe presse au nom de Horizon Évangélique. Ils étaient. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils, pour eux, ils avaient enfin trouvé encore plus bizarre que eux. Ils m'ont déroulé le tapis rouge. Et depuis, j'y vais à chaque fois que je peux, et j'en profite donc pour non seulement interviewer les musiciens chrétiens, mais aussi avoir une présence chrétienne, répondre à des questions. Je vais vous dire, dans un rassemblement de métalleux, ce sont des gens obsédés par l'enfer, le paradis, Dieu et le diable. La conversation spirituelle, le partage de l'évangile, vous l'aurez jamais plus facile que dans un contexte comme celui-là. J'ai fait des campagnes OM, j'ai fait des campagnes d'évangélisation, j'ai projeté les films Moody, Billy Graham, j'ai tout fait. Jamais je n'ai eu autant de conversations faciles sur l'évangile, et intéressantes et profondes et en prise avec les interrogations des gens, qu'au Hellfest. Mais bon, c'est sûr que dans ce contexte-là, je rencontre des gens qui sont très différents de moi et qui ne partagent pas mes convictions. Parfois, il y a des chrétiens, que ce soit avec le sida ou avec la musique, qui me disent « Mais comment tu peux passer du temps avec des gens qui sont comme ça ?» Qu'est-ce que ça veut dire, « comme ça » ? Ça veut dire qu'ils ne pensent pas comme toi, qu'ils ne te ressemblent pas. Ça veut dire des personnes qui ne partagent pas mes convictions chrétiennes pour un très grand nombre d'entre eux. Je reviens à mon analogie de tout à l'heure. L'important dans cette histoire, c'est d'être à l'aise dans ses baskets. De ne pas avoir besoin de s'entourer de personnes qui partagent nos convictions avant de nous sentir en sécurité. Nous n'aboutirons jamais notre accueil, nous ne construirons jamais, nous ne serons jamais intentionnels dans notre accueil tant que nous avons besoin que les gens soient d'accord avec nous pour être à l'aise avec eux. Si par contre, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, si vous êtes confiant en sa résurrection, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, si le Saint-Esprit habite en vous, vous n'avez pas à craindre la différence. Nous n'avons pas à craindre d'être entourés de gens qui ne partagent pas nos convictions. Notre sécurité dépend du Christ et de son œuvre à la croix. Notre identité de chrétien dépend du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est vrai que notre nature humaine nous pousse à chercher à valider notre identité, nos convictions, en convainquant les autres que nous avons raison. On aime bien des rapports de campagnes d'évangélisation ou qui parlent du nombre de conversions ou une église qui peut dire « voilà, on a baptisé tant de gens depuis 2 ans ». On accueille tant de personnes au culte. On aime bien parce que ça valide ce que nous disons. Ça valide notre approche de la foi. Le problème, c'est que dès qu'on se retrouve avec des gens qui sont différents, qui peut-être vont contrer notre foi, qui vont s'opposer à nous, eh bien, ça fait des étincelles. Si nous n'arrivons plus à convaincre les autres que nous avons raison, ça introduit le doute. Peut-être qu'après tout, je n'ai pas raison. Le résultat final en est un repli sur soi. Déjà, ça ne marche pas dans les familles, ça ne marche pas non plus dans les églises, encore moins dans la société en général. Le résultat, un repli sur soi, un enfermement en petits clubs de personnes qui pensent de la même manière. Et dans le cadre extrême, ça produit des personnes, et on a depuis quelque temps mis un vocabulaire sur ce genre de personnes, qu'on retrouve souvent dans les églises, parmi les chrétiens, les pervers narcissiques. Des personnes qui... Justement, la pathologie des pervers narcissiques consiste à vouloir imposer une seule vérité personnelle sur les autres. Et notre culture chrétienne, avec son ancrage dans une vérité révélée, me semble malheureusement favoriser, surtout quand elle est mal interprétée, ce genre d'excès. Les chrétiens qui m'ont le plus inspiré dans le passé, les chrétiens qui, lorsque j'étais ado, jeune adulte, je pouvais les regarder en disant « quand j'aurai son âge, je serai comme lui. Quand j'aurai son âge, je serai comme elle. » Ou « j'ai envie d'être comme elle. » J'ai eu la bénédiction d'avoir des gens que Dieu a placés sur mon chemin qui ont joué ce rôle pour moi. Et c'est précieux. Et si vous voulez, j'étais en train de parler hier avec un ami qui se demande où est son rôle dans l'église. Pour différentes raisons, on ne lui demande plus de présider les cultes, il n'est pas prédicateur, il se demande où trouver ma place. Mais je sais que c'est quelqu'un qui inspire les autres. Je dis, mais son rôle à lui, c'est peut-être placé par Dieu pour que des gens qui ne vont jamais être prédicateurs, qui ne vont jamais être responsables du groupe de jeunes, puissent simplement le regarder en disant, à 40 ans, je pourrais être comme lui. Je pourrais être chrétien comme lui. Je pourrais exprimer ma foi de cette manière-là. C'est précieux dans les églises d'avoir des personnes comme cela. Et justement, les personnes qui m'ont le plus inspiré, qui correspondaient à ça pour moi, étaient des personnes qui restaient sereines malgré un contexte où elles n'étaient pas entourées par des gens qui partageaient leurs convictions. Des chrétiens, bien dans leur basket de chrétiens. L'Église n'a pas à s'adapter pour devenir comme ceux et celles qu'elle accueille. D'ailleurs, les communautés qui cherchent trop à s'adapter à ceux qu'ils accueillent finissent souvent par le regretter et faire marche arrière. Ce que je disais tout à l'heure à propos de la curiosité des gens, les gens, ils veulent, s'ils veulent s'approcher de Dieu, ils veulent une Église. Ils préfèrent quand ça ressemble à une église même. Ils s'attendent à voir une croix au mur. Ils s'attendent peut-être à voir un autel ou qu'il y ait une cérémonie d'initiés à laquelle ils n'ont peut-être pas à prendre part. C'est possible. Ils s'attendent à voir un baptistère. Beaucoup de nos visiteurs dans nos églises s'attendent à trouver des marques typiques comme l'architecture, la croix, l'autel, des versets bibliques accrochés au mur. Je me souviens justement à l'église libre d'Avignon, qui était très bien située, donc Luc et Joël s'en souviennent certainement. Elle était très bien située. Bon, quand elle a été construite, cette église, C'était pour sortir d'un local absolument inadapté au centre-ville d'Avignon, intramuros. Et donc, quand ils ont commencé à construire le bâtiment, c'était des friches et des vignes. Il n'y avait rien autour. Et ça leur a fallu un peu de... Bon, la municipalité leur avait donné, enfin, désigné le terrain, etc. Bon, il y avait quand même des raisons pour lesquelles ils sont mis là. Mais 10 ans plus tard, l'église était sur une voie de bus urbain très très fréquentée, à côté d'une énorme clinique. Il y avait un parc pas loin, parc Chico Mendes, je me souviens encore du nom. Et les gens allaient y faire leur footing, allaient y promener leurs chiens. Et je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré des gens dans cette église qui, ce n'étaient pas des gens qui étaient en recherche de Dieu, mais c'était des gens qui étaient curieux de Dieu. En fait, c'était souvent des gens qui, Quadra, avaient grandi sans catéchisme. Voilà. La génération, la première génération où la règle n'était plus de mettre ses enfants au catéchisme. Donc, c'était peut-être leurs parents qui avaient rejeté la religion. Et puis, arrivé à 40, 50 ans, allez, un peu entre la maladie, le chômage, les difficultés familiales, peut-être le divorce, c'était des gens qui se sont dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et d'une manière parfois même pas articulée, c'était des personnes qui sentaient le besoin, s'il y a un Dieu, qu'il fasse un peu partie de leur histoire. Et très souvent, ce sont des gens qui avaient vu centre évangélique, ou centre protestant, église évangélique libre. Ils avaient vu ça par la vitre du bus ou en faisant leur footing. Ils se sont dit, un dimanche, je vais voir. Curieux. Savoir accueillir ce genre de personnes. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu votre église, je ne sais pas où elle est située. Mais bon, après, certaines églises ne sont pas situées sur une ligne de bus. Bon, il faut communiquer autrement. Nous, dans l'église au Mans, où je suis pasteur à temps partiel actuellement, on a des gens qui sont très bien avec les sites internet. Donc, être répertorié église protestante évangélique, quand les gens tapent église évangélique dans Google, qu'ils tombent vite sur nous, c'est une bénédiction et ça amène du monde. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure, l'accueil, c'est pas juste le lieu et le bâtiment et les gens, c'est aussi la présence sur Internet. C'est une autre réflexion. À nous de trouver des moyens de satisfaire leur curiosité. Et ça passera obligatoirement par des églises accueillantes. Je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Si vous n'avez rien à dire, je peux continuer pendant un petit bout de temps. Mais... Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne? Des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Oui.
Tout à l'heure, tu as dit quelque chose à propos du... Quand notre message, notre témoignage n'est pas passé, qu'on rentre devant un mur... Mmh. Ça fait penser, alors, pas forcément aux gens qui sont coincés dans la voiture sur le bord du chemin devant notre église, mais plus à ma famille qui me connaît depuis des années, parce qu'on est chrétien, je suis forcément chrétien depuis des années, à mes collègues qui me fréquentent 7-8 heures par jour depuis quelques années maintenant. Le message ne passe pas. Est-ce qu'il faut que mon message s'adapte, change, ou est-ce que je garde ma ligne et de travail?
Les deux. ouais. Non, c'est une réflexion salutaire que de se dire, est-ce que je suis en train de bien communiquer? Je veux dire, un message vrai et important, mal communiqué, autant se taire. Donc, bien communiquer, oui, la forme. Aussi le fond. Est-ce que ce que je communique correspond aux questions, aux préoccupations de mes interlocuteurs ou de ceux que je côtoie. Donc, il y a ça, il y a cette réflexion à mener. Mais alors, c'est demain après-midi que je vais surtout parler d'un autre aspect de notre accueil qui est justement la part qui nous revient et la part qui revient à Dieu. Il y a un auteur qui s'appelle Eugene Peterson, que certains connaissent aussi certainement. C'est un pasteur et il est devenu un peu le... Il est mort il y a un an à peu près, un an, deux ans. Il avait une réputation d'être pasteur de pasteurs, donc professeur de théologie pratique. Il a écrit beaucoup de livres sur le rôle pastoral et qui sont précieux même pour ceux qui ne sont pas pasteurs. Si jamais vous... Je vous conseille vivement Eugene Peterson. Et il a beaucoup parlé de cette sérénité qui vient d'une compréhension que nous sommes, allez, une pierre dans l'édifice que Dieu construit. Nous sommes une étape dans le chemin des gens que Dieu aime. Il prend l'exemple dans un de ses livres de ce moment que tous les pasteurs connaissent, où, allez, on a une rencontre pastorale hyper sensible et compliquée à faire. Une visite pastorale. On sait que l'issue va être difficile, longue, et on redoute. Alors, Eugene Peterson parle de... Il a dit, voilà, j'ai pris ma voiture, je suis allé, je me suis garé devant la maison ou l'immeuble où habitent les gens que je vais rendre visite. J'ai trouvé ma place de parking, malgré tout, malgré la difficulté de se garer. Je m'agrippe au volant et je lance une prière à la Néhémie vers Dieu. Une prière, je priais le Seigneur des cieux et je m'adressais au roi. Donc cette prière hyper rapide avant de rentrer en action. Et je prie une prière à la Néhémie et je dis, Seigneur, précède-moi dans cette maison, ou précède-moi dans cet appartement. Va devant moi, prépare le terrain. Il a dit, un jour je me suis rendu compte que cette tension pastorale que j'éprouvais n'avait vraiment pas lieu d'être. Parce que Dieu était déjà dans ce lieu. Dieu était déjà dans l'histoire de ces gens. Et lui, en tant que pasteur, il n'était qu'une étape, qu'un élément de leur cheminement. Il a dit ça autrement, et ça me console beaucoup, parce que donc, j'ai deux fils, un qui suit le Seigneur et un qui ne le suit pas. Et un qui a rejeté la foi. Et quand on vit ce genre de choses dans sa famille proche, c'est un réconfort très important de savoir que Dieu aime cette personne plus que nous ne pouvons l'aimer, même en tant que papa ou que maman. Et pour nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ça c'est hyper important et précieux. C'est une consolation. Mais c'est pareil pour toutes ces personnes que nous côtoyons, nos collègues de travail, nos proches, les membres de notre famille, ils nous voient vivre. Il y a vraiment une sérénité à laisser Dieu faire son travail afin de nous ouvrir les portes au moment où il faut. Pendant 10 ans, je tenais un stand de Bible au marché plein air de la ville de Cavaillon, petite ville du Vaucluse où j'habitais. Et pendant 10, 15, 20 ans avant moi, il y avait un pasteur qui avait tenu le même stand de Bible. Et pendant toute cette période, au total une trentaine d'années, notre stand de Bible était adossé à une de ces longues camionnettes de marché qu'on voit parfois. C'était donc deux frères d'origine juive, qui vendaient des tissus. Et donc, au fil des années, je sais que mon prédécesseur, ce pasteur, qui aurait dû être à la retraite déjà à l'époque, avait témoigné, avait partagé l'évangile à 36 000 fois. Et puis, un jour, après quelques années, je les connaissais aussi, ces frères. Et un jour, un de ces deux hommes, son fils a eu un accident de voiture en sortant de boîte de nuit et il est mort. Il a été tué dans l'accident. Et tout à coup, ce gars a eu besoin d'un pasteur. Ça faisait 25, 30 ans qu'il connaissait, qu'il côtoyait un pasteur. Jamais il n'avait vraiment approfondi. Ah, on partageait l'évangile, il savait qui on était, il avait accès à la Bible et tout, et tout, et tout. Le moment où... Alors, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie par la suite, je l'ai perdu de vue maintenant. Mais le moment est venu où tout à coup, il a eu besoin d'un pasteur. Et moi, je vois ça comme Dieu qui est à l'œuvre. Et il y a une sérénité à ne pas porter le poids d'être obligé d'être plus... Voilà, de mieux communiquer, de transmettre l'évangile, un peu comme mon ami tout à l'heure, avec son chant et sa participation pour la fête de la musique. Soyons à l'aise, laissons Dieu faire son œuvre. Et en fait, c'est soyons là où Dieu nous veut, quand il nous veut. C'est l'importance d'une piété personnelle, quotidienne, c'est l'importance d'une vie d'église soutenue, pour qu'on puisse garder cette communication constante avec le Seigneur, afin que le moment où tout à coup quelqu'un qu'on n'avait jamais soupçonné s'approcherait de l'évangile, tout à coup le Saint-Esprit, par son action dans sa vie, intervient et c'est là, ah oui, je connais un chrétien, je connais quelqu'un qui est passé par là avant moi, j'ai envie de lui parler. D'autres remarques, d'autres questions ?
Mmh. Est-ce que les gens viennent parce que c'est un beau bâtiment qui brille et qui est un saint, ou est-ce que c'est les gens qui étaient attirés par Jésus, pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il y avait un message pour
ouais.
être percutant.
Ouais.
Et quelle implication ça peut avoir sur l'aspect matériel en fait.
Ouais. En fait, je pense que ça vient, un des pièges dans lesquels nous risquons de tomber si nous ne faisons pas attention, c'est le piège de chercher à impressionner les gens. On aimerait que tout soit beau, que tout soit impressionnant. On aimerait leur présenter une église lisse, parfaite, qui a réglé ses problèmes, qui s'entend bien. Alors moi, j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça avec une église dans un autre pays, une situation où c'était clair que les responsables, tout ce qui comptait, c'était la façade. Que la façade soit... Pour eux, il ne faut surtout pas nuire au témoignage. Mais nuire au témoignage, ça voulait dire balayer sous le tapis des abus, des violences à l'intérieur des familles. Nous avons envie d'impressionner les gens par une église belle, lisse. Nous aimons impressionner les gens par... le standing social peut-être de nos paroissiens. Ces choses sont importantes dans un sens, c'est-à-dire ça compte que l'on réfléchisse à qu'est-ce que les gens pensent lorsqu'ils voient vivre notre Église. Est-ce qu'ils voient un nid de guêpes constamment en train de se piquer les uns les autres, ou est-ce qu'ils voient des gens qui règlent leurs problèmes quand ils en ont. Parce que ce n'est pas la peine de faire croire aux gens qu'on n'a pas de problème, ils ne sont pas dupes. Le problème avec ce désir de chercher à impressionner les gens, c'est qu'il se trouvera toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus intelligent, qui a plus de succès dans la vie. Et cette personne-là sera peut-être athée. Ou bouddhiste, ou musulmane, elle ne sera pas forcément chrétienne. Et donc, si nous accordons trop d'importance à ce qui est beau, à ce qui est performant, à ce qui est efficace, ou qui a du succès dans nos églises, eh bien, un jour, on va se retrouver dans une situation, on va être perdant, voilà. Un jour, on va être perdant, parce qu'il trouvera quelqu'un qui ne sera pas comme nous, qui ne partagera pas nos convictions, et qui convaincra nos jeunes, nos amis, nos familles, d'aller dans un autre sens, si on se base uniquement sur l'importance d'impressionner les gens. C'est pour ça que je pense que Dieu n'a pas choisi de s'incarner dans un acteur hollywoodien. C'est pour ça qu'il a choisi de s'incarner à une époque où il n'y avait pas cette culture de l'image qu'on a de nos jours, il n'y avait pas les moyens de communication médiatique que nous avons de nos jours. Puis je dirais aussi, encore, dans un sens, encore pour aller plus loin et pour se rapprocher plus de nous, c'est pour ça que Dieu choisit de collaborer avec nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais Dieu, je n'aurais jamais fait comme ça. Nous sommes compliqués. Nous sommes parfois rebelles, nous sommes faillibles, nous sommes remplis de failles. Et pourtant, Dieu a décidé, choisi quotidiennement d'accomplir son œuvre d'extension du royaume en collaboration avec nous. Moi, je choisis mes collaborateurs avec beaucoup plus de soin que ça. Mais Dieu l'a fait et il sait tout, et il est omniscient. il a quand même choisi de le faire. C'est beau, ça doit nous consoler, ça doit nous inspirer. Et je pense que c'est pour ça que Jésus n'était pas beau. Il n'a pas profité de tout ce que nous on pense qu'il aurait dû utiliser pour mieux mettre plus efficace. D'ailleurs, c'était un problème constant pour les disciples. Hein. Vous vous souvenez de l'occasion où il y a un gars riche qui se présente à cette pauvre bande de vagabonds qui n'avaient pas de demeure, ils n'avaient pas de quartier général, ils vivaient tant bien que mal des subventions de quelques femmes riches. Et voilà qu'un jeune riche, un notable, se propose de se joindre à l'équipe. Les disciples, ils se devaient frotter les mains. Enfin, peut-être qu'on aura de la viande dans la soupe. Et puis Jésus, il va, il gâche tout, quoi. Il lui dit, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et après tu viendras me suivre. J'imagine Pierre, j'imagine Judas, hein, qui devait tenir la bourse de l'équipe. Dis, mais c'est... Non, Seigneur, t'as pas compris. D'ailleurs, les disciples, d'une manière ou d'une autre, l'ont souvent dit à Jésus, ça. Hein. Non, Seigneur, tu comprends pas. Et dans les évangiles, quand on lit les évangiles avec ce regard, c'est savoureux à quel point les disciples ont dit souvent au Seigneur, tu n'as rien compris. Voilà. Ce serait la réponse, c'est ma réflexion suite à cette idée que Jésus n'était pas beau. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, d'autres questions, d'autres remarques? Encore? Oui, oui, vas-y.
Par contre, toi, tu parlais par exemple du test où je pense que c'était pas mal de chrétiens. Et quelle est limite pour toi entre le fait que tu vois aller dans des lieux alternatifs comme ça ou...
Quel danger, ouais. Alors, premièrement, tous les chrétiens ne sont pas appelés à faire la même chose. Donc, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens devraient aller au Hellfest. Je suis pas en train de dire que les chrétiens devraient s'occuper de personnes qui ont une vision alternative de leur orientation sexuelle. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens... Il devrait y avoir des chrétiens qui savent et peuvent aimer les gens dans tous ces contextes différents. Et dans une église, on a plein de compétences et d'intérêts différents. On ne va pas demander... Par exemple, le sida. Plusieurs fois, à l'époque, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on me demandait souvent d'aller prêcher dans une église à propos du sida. Et j'ai toujours refusé. La prédication du dimanche matin, elle devrait être ouverte à tout le monde, y compris à une mamie qui n'a pas envie d'entendre parler d'homosexualité, de toxicomanie le dimanche matin au culte. Alors, si, il n'y a aucun thème tabou dans une prédication. Mais il y a un contexte pour parler en tant que chrétien du sida, il y a un contexte où ce n'est pas le moment d'en parler. Pour moi, le culte du dimanche matin, ou dimanche soir, si vous êtes une église qui font le culte du dimanche soir, hein, peu importe le moment, n'est pas le lieu où parler de certaines choses. Donc je ne vais pas parler du hard rock et du Hellfest dans une prédication. Je prêche autour de la Bible, pas de mon vécu. Mais les limites, alors je vais raconter deux histoires pour les limites. Lorsque j'ai accompagné des malades du sida, quelqu'un m'a posé une question analogue. Moi, j'ai dit, en fait, c'est très simple. Mes amis homosexuels, je vais leur inviter à prendre un verre avec moi au bar, mais je ne vais pas les accompagner dans un bar gay. Pour moi, la limite, elle était là. Il n'y a aucune raison que je ne passe pas du temps avec eux, mais je ne vais pas passer du temps avec eux qui est connoté un lieu de drague homosexuelle. Je ne vais pas leur donner rendez-vous sur un parking de l'autoroute qui est le lieu qu'ils connaissent tous comme étant un lieu de drague homo. Je vais leur donner rendez-vous dans un resto ou ailleurs. Pour moi, la limite, elle était là. Pour ce qui est du Hellfest, je dirais que la limite... Voilà, l'histoire que je raconte, c'est un jour, justement, on m'a proposé... C'est une responsable de label de disques qui m'a proposé de rencontrer le chanteur d'un groupe qui s'appelle... alors, le chanteur lui-même, il s'appelait Attila Ciar. Le groupe, c'est Mayhem. Alors, Mayhem, c'est un groupe, pour ceux qui connaissent un peu le métal, c'est un groupe d'origine scandinave, norvégienne, où alors il y a eu un de leurs membres a fait de la prison pour avoir tué un autre musicien du groupe pour une histoire de fille. Ensuite, il y en a un qui s'est suicidé, un qui, dont le nom de scène c'était Death, hein, D-E-A-T-H, la mort, c'était son nom de scène. Il s'est tiré une balle dans la tête. Lorsque les autres membres du groupe ont trouvé son corps, avant d'appeler les autorités médicales ou ce qu'on fait quand on trouve un ami suicidé, ils en ont profité pour prendre des photos qu'ils ont utilisées dans leur pochette de disques. Et ils ont pris des fragments de son crâne pour en faire des bijoux. C'est un groupe qui se donne ils font des messes sataniques, ils portent des croix à l'envers. C'est l'ultime du groupe qui se dit satanique. il y en a un qui a fait de la prison pour avoir mis le feu. C'était cette histoire dans les années, début des années 2000, fin des années 90, où il y a eu des églises qui ont été incendiées en Norvège. Et donc c'était ce groupe qui était un peu au cœur de cette histoire. Donc, tu ne pouvais pas trouver plus au cœur de la christianophobie du métal que le groupe Mayhem. La responsable du label de disque me contacte en disant « Toi qui es pasteur, pourquoi tu n'interviewerais pas Attila du groupe Mayhem ?» Moi, j'avais interviewé des chanteurs chrétiens, je n'avais jamais pris la peine d'interviewer quelqu'un comme Attila Kiar. Au début, j'étais plutôt porté à dire non, je ne voyais pas ce que je pourrais faire de l'interview. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais tu sais, tu connais l'histoire d'Esther dans la Bible, tu sais, elle avait un oncle qui lui a dit quelque chose du genre, qui sait si ce n'est pas pour ce moment que Dieu t'a mis là. Hein, donc c'est l'histoire d'Esther, que son oncle Mardoché qui lui dit, peut-être que Dieu t'a mis à ce poste de reine de Babylone, exprès pour sauver ton peuple, parce que voilà, le peuple allait être exterminé par les Babyloniens. Elle a dit, qui sait si Dieu t'a pas donné cette ouverture au Hellfest, tu t'entends bien avec les organisateurs, les services presse, cette femme qui gère ce groupe te dit, toi qui es pasteur, tu voudrais pas interviewer même, pourquoi tu le ferais pas? Alors j'ai prévenu tous mes amis chrétiens, j'ai dit, priez pour moi. Mais de toute façon, je veux dire, on est du côté gagnant ou on ne l'est pas. Si nous sommes convaincus qu'on est du côté gagnant, que risquons-nous à aller au combat? Une victoire ne se remporte pas dans le canapé. Alors, j'ai dit oui. Et donc, la responsable, je suis allé au Hellfest, donc la responsable m'a dit, bon ben voilà, c'est ton tour, tu as 20 minutes avec Attila. Alors, 20 minutes, c'est court, mais on a le temps de commencer à parler. Au bout de 20, alors on a commencé à parler avec lui. Alors déjà, une chose était archi claire. Il avait plus peur d'un pasteur chrétien que moi, je n'avais peur d'un musicien de métal satanique. Ça, c'était, il était sur une réserve que j'ai jamais rencontrée dans ce genre de contexte. Et puis on s'est mis à parler. Alors, d'abord, il s'est rendu compte que j'étais bienveillant. J'étais pas là pour lui rentrer dans le lard. On a parlé de si oui ou non Jésus avait vraiment existé. Il prétendait avoir lu la Bible, mais à mon avis, c'était du pipeau. En fait, il ne s'était jamais assis avec un chrétien pour parler de la foi. Je lui dis, mais pourquoi tu détestes tant les chrétiens? Il dit, mais je ne déteste pas tant les chrétiens. Je dis, ben Dieu, alors non, je ne déteste pas Dieu. Je ne sais pas s'il existe, mais moi, c'est l'institution religieuse que je déteste. Ça, je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu plein de fois, celle-là. Alors, après, il m'a sorti, vous savez, les arguments archi-rabâchés de si Dieu existait, il ne permettrait pas ceci. Ou... Comme si c'était la première fois que je les entendais de ma vie. Ah oui, j'y avais pas pensé, non. En fait, on s'est mis à parler, on a couvert tout ça, on a parlé. Est-ce qu'il y a vraiment un monde immatériel? Alors, pour quelqu'un qui se prétend satanique, c'était la question importante, quoi, au cœur du problème. Est-ce que le monde immatériel est réel ou pas? Est-ce que le diable existe? On a parlé de tout ça. Et au bout de 20 minutes, il y a la tourneuse, enfin la responsable de son label, qui est venue dire, bon voilà, tu as fini le temps. Il s'est tourné vers elle, il a dit, attends, non, on n'a pas fini. J'ai jamais eu des questions comme celle-là. J'ai jamais été interviewé de cette manière-là. Il faut que tu remettes le prochain journaliste. Je je ne sais pas qui c'était, j'espère qu'il ne m'en a pas trop voulu. Il faut que tu lui dises de revenir dans 20 minutes parce qu'on n'a pas fini. Je veux continuer avec cet oncle. J'ai eu 40 minutes avec lui. Au bout de 40 minutes, il m'a dit, écoute, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est ce que je crois aujourd'hui. Mais je ne sais pas quel va être mon voyage pendant 10 ans. Et peut-être que dans 10 ans, je vais vouloir parler à un pasteur. Alors, tiens, je te donne mon email, on garde le contact. Chaque année, je lui envoie un petit mot avant le Hellfest. Il n'y est pas toujours, mais l'année prochaine, il va y être, normalement. Et je lui dis, coucou, chez moi, le pasteur t'a rencontré, est-ce que... Et le mail ne m'est jamais revenu, donc je suppose qu'il le reçoit. Il ne m'a jamais répondu. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'attends le jour où Dieu va lui dire, écoute, c'est le moment. Vas-y, maintenant tu vas parler à Jonathan. Je pense que le Saint-Esprit va peut-être... Enfin, je suis là pour le jour où le Saint-Esprit décide que le moment est venu. Et voilà, donc je dirais qu'il y a, dans un sens, il n'y a pas de limite parce que ma présence ne cautionne rien. Ils n'ont pas besoin de ma caution. Ce n'est pas d'être là. On vit, c'est un des avantages du postmodernisme, c'est que être avec ne signifie pas être d'accord avec. On peut se trouver avec des personnes sans que ça cautionne leur choix de vie. Après, il y a plein de groupes chrétiens aussi qui jouent au Hellfest. Il y a plein d'artistes chrétiens dans des groupes. Et je suis là aussi pour être un peu pasteur pour eux. Donc voilà, limite. Je n'applaudis pas des groupes qui affichent leur christianophobie. En même temps, bon, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Athéiste, en anglais, athée. Et en fait, c'est un groupe que je cite souvent parce qu'ils posent toutes les bonnes questions. Ils ont toutes les mauvaises réponses. Ou plutôt, ils n'en donnent pas, mais ils posent les bonnes questions. Pour terminer sur le Hellfest, parce que je n'ai pas envie de revenir sur le Hellfest à chaque fois que je parle, justement, l'année où j'ai interviewé Mayhem, j'étais avec mon fils, donc mon fils qui, à l'époque, avait 16-17 ans. Et on était dans l'espace VIP, l'espace presse. Donc, comme on avait un accès presse, c'est un espace où on n'est pas dans la foule, bousculé. Je suis trop vieux pour faire les festivals de métal dans la foule comme ça. Et donc, j'étais là avec mon fils entre deux concerts, entre deux interviews. Et à un moment, il y avait un espace, il y avait pas mal d'espace. Et puis, il y a deux, en fait, deux filles. Allez, comment vous les décrire ? C'était des groupies de groupes de rock, quoi. Elles étaient habillées, elles avaient le look des nénettes qui suivent les musiciens et qui sont là un peu, voilà, pas forcément pour des raisons musicales. Et ces deux filles se sont approchées de nous et elles venaient de se rouler un joint, elles n'avaient pas de feu pour l'allumer. Alors, elle me demande, tu peux nous donner du feu ? Je dois avoir l'air de quelqu'un qui fume. j'ai dit, non, désolé, on ne fume pas, ni lui, ni moi. Alors, elles sont parties chercher du feu, puis elles sont revenues après. Bon, je pense que c'était plutôt mon fils qui les intéressait que moi, mais ça, c'est une autre question. Et il y avait de la place autour de nous, il y avait des chaises, il y avait des sièges vides. Et donc, elles ont dit, est-ce qu'on peut s'asseoir ? Il y avait de la place. Je dis, ben, allez-y, on s'est mis à discuter. Elles étaient australiennes. Alors, on s'est mis à parler. Et si on était là, c'est qu'on bossait, c'est qu'on était soit avec un groupe, soit avec un label, ou avec un journal, une radio, quelque chose comme ça. Alors, elles m'ont dit, alors qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, j'écris, je suis venu pour interviewer Attila Xiar de Mayhem. Elle dit, ah ouais, c'est intéressant, et tu bosses pour qui ? Je dis, je bosse pour Horizon Évangélique. Qu'est-ce que... Tu viens faire à interviewer Attila Xiar. Alors j'ai dit, bah, il pose. Je considère que c'est un groupe qui pose des questions sur Dieu qui sont très intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec les réponses qu'il donne, mais on m'a proposé de l'interviewer. Et comme il pose des questions qui font réfléchir, j'ai voulu en savoir plus sur lui. Et donc, bon, on a parlé un petit peu, puis moi je leur ai demandé, et vous ? Alors elles étaient avec un. Ils étaient avec un groupe, là encore, un groupe qui se prétend, qui s'appelle Morbid Angel, ange morbide. Ça vous donne un peu... Donc, toutes leurs pochettes de disques ont des étoiles, vous savez, des pentagrammes, hein, les étoiles à cinq branches du satanisme. Enfin, là encore, c'est plutôt du showbiz qu'une réelle adoration satanique. J'ai eu l'occasion de les interviewer aussi, donc je sais que c'est comme ça qu'ils voient leur satanisme. Mais ils ont dit, voilà, on est là avec Morbid Angel. Et puis, elles ont commencé à nous poser plus de questions sur la foi chrétienne. Et à un moment, il y en a une qui s'est dit, qui m'a dit, « Ouais, mes parents en Australie, ils sont comme toi. Ils sont chrétiens aussi. J'ai grandi dans une église évangélique. Mes parents, ils n'aiment pas trop mes choix de vie. Je crois qu'ils prient pour moi. » Elle a dit. J'avais envie de lui dire oui. Il prie que tu rencontres des gens comme nous. Et j'ai dit, mais Seigneur, merci quoi. Merci de nous avoir placés là où des gens qui avaient besoin d'entendre. C'était peut-être juste une goutte d'eau dans l'océan. C'était une pierre une étape sur le chemin de leur relation avec le Seigneur. C'est des histoires. On ne peut pas construire toute une logique sur des histoires vécues comme ça. Mais je pense que la parole d'un ami, justement métalleux, qui joue avec un groupe qui s'appelle Korn, qui est guitariste dans ce groupe et qui a vendu 60 millions d'albums, qui sait, une fois quelqu'un lui... Moi, je lui ai posé la question dans une interview, qu'est-ce que tu te réponds aux gens qui disent que tu ne devrais pas venir au Hellfest ? Parce que c'était l'année où il y avait beaucoup de t-shirts qui se vendaient « Your God is dead ». Ton Dieu est mort. Puis il y en avait une autre qui disait « All Christians to the lions », que tous les chrétiens soient jetés au lion. Et je dis « qu'est-ce que tu penses quand tu vois ce genre de t-shirt ? Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui te disent que tu ne devrais pas te trouver là ?» Il dit « Les gens qui portent ces t-shirts-là, c'est comme s'ils étaient aveugles, c'est qu'ils n'ont pas encore vu la lumière. Si les chrétiens leur jettent des pierres, c'est comme si les gens qui voient jettent des pierres aux aveugles. » Il dit, il faut être là pour répondre à leurs questions. Il dit, parce que ce sont, chaque fois que quelqu'un a un t-shirt, « Your God is dead », il croit qu'il est cool parce qu'il affirme un truc, mais en fait, c'est un énorme point d'interrogation. Et ce groupe atheist dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont que des bonnes questions autour de la foi, de la religion. Toutes les mauvaises réponses. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute. J'ai dit que je ne serais pas encore en train de parler à 16h. Il est 16h moins 20. À demain pour la suite.